Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, pour cette émission Tourne-Page, je vous propose le livre de Paul Valadier, Sagesse biblique, sagesse politique. Au moment où il y a des élections et une élection chasse l'autre, au moment où on s'interroge sur les fondements politiques, où on se pose des questions sur la désaffection des citoyens vis-à-vis des urnes, le recours aux extrêmes, eh bien, il est peut-être intéressant de regarder ce que Paul Valadier nous propose dans ce qui apparaît comme une opposition entre sagesse biblique et sagesse politique. Il propose donc de parcourir ce qui est le fondement de nos démocraties. Alors, est-ce que ce titre implique une opposition ? Eh bien, il nous fait découvrir qu'il y a bien les deux sources de sagesse, la sagesse qui nous vient de l'Antiquité, grecque, romaine, la sagesse qui nous vient de la Bible. Et il passe en revue ces propositions. Alors, peut-on trouver encore, c'est une des questions auxquelles il s'efforce de répondre, dans ces textes anciens, peut-on trouver encore de nos jours des fondements pertinents ? Et puis, étant donné l'évolution, est-ce que ces textes aussi anciens ne sont pas totalement dépassés lorsqu'il y a le mal absolu tel que nous l'avons connu avec la Shoah ou bien avec les systèmes totalitaires ? Donc, doit-on donner congé aux Grecs ? Doit-on donner congé aux religions ? Alors, il s'interroge. Lorsqu'on lit la table des matières, on repère qu'il y a une réflexion sur Athènes et Jérusalem, les fondements politiques que cela implique pour nous. Comment la Bible nous fait passer aussi par l'intermédiaire d'un pouvoir reçu, c'est le pouvoir royal. Et la question est, doit-on être soumis au pouvoir royal ? Et qu'est-ce qui fonde ce pouvoir royal ? Et y a-t-il derrière ce pouvoir royal une tendance théocratique ? D'ailleurs, le jeune Salomon est très méfiant lorsque on lui propose de choisir et il demande la sagesse. Alors, comment ? Justement, la sagesse politique est gérée lorsque on est au pouvoir. Alors on a justement cette réflexion sur le jugement bien connu de Salomon, sa réflexion sur comment on s'approprie un don de Dieu, puisque dans cette société théocratique, le pouvoir est lié au choix divin. Donc on peut repérer aussi que dans nos sociétés anciennes, les monarchies ont pris de ce pouvoir. Et aussi, et c'est ça qui me paraît très important, c'est au chapitre 3, quelles sont les tentations du pouvoir ? Et comment, dans l'Évangile, le Christ aborde ces questions du pouvoir ? On connaît bien la réflexion « Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et le père Valadier se propose de réfléchir sur la sagesse de cet enseignement. Il l'éprouve, il regarde ce qui se passe dans nos sociétés et il nous propose de réfléchir à la tentation du pouvoir. Parce que chacun a un petit pouvoir, le pouvoir dans la famille, le pouvoir dans l'entreprise, le pouvoir dans une association. Donc comment gère-t-on ce pouvoir ? Est-ce que ce pouvoir est au service de la société ou bien est-ce que ce pouvoir est plutôt de se servir ? Le père Valadier aussi évoque, ça c'est au chapitre 4, l'autorité. D'où vient cette autorité ? Vient-elle de Dieu ? Vient-elle des hommes ? Là aussi, il y a toute une réflexion sur le pouvoir. Et lorsque, aujourd'hui, on récuse le pouvoir politique, le père Valadier propose de repérer quels sont les agents du pouvoir. Ceux qui font les lois obéissent-ils à la dictature des sondages ? Obéissent-ils aux mœurs ? Quelle est la part de la tyrannie des modes ? Donc, il y a cette réflexion sur les tyrannies cachées, les tyrannies des groupes libertaires, la tyrannie du politiquement correct. Il y a des cléricalismes. Est-ce que la Bible, dans ce cas, n'a pas encore quelque chose à nous dire ? Toute autorité vient de Dieu. C'est la proposition qui est faite au chapitre 4. Je souligne la réflexion qui ouvre ce chapitre. N'y a-t-il pas quelque incohérence à distinguer ce qui revient à César et ce qui revient à Dieu quand on déclare également que toute autorité vient de Dieu ? Où Où est la cohérence d'une telle conception? Si toute autorité, donc celle de César, vient de Dieu, ne retire-t-on pas d'une main ce qu'on a donné de l'autre? À l'appui de sa réflexion, Paul Valadier va repérer ce qu'apporte Paul, une théologie politique assez générale. Pierre en rajoute. Il faut justifier l'obéissance. Et il est assez intéressant de repérer que le même Pierre, qui nous rappelle que toute autorité vient de Dieu, qui veut donc impliquer les chrétiens dans cette obéissance, lui-même considère qu'il y a un discernement à avoir dans l'obéissance à la loi, puisque ne dit-il pas au Sanhédrin qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En tout cas, on perçoit que cet axiome « toute autorité vient de Dieu » doit être réfléchi, et la formule paulinienne qui a suscité d'innombrables complexes, comme la formule de Pierre, amène tout de même à réfléchir. Et le père Valadier évoque, sans dévaloriser les lectures anciennes, on peut avancer que notre perception des choses se doit de tirer du nouveau à partir de l'ancien. Se doit d'entendre la fraîcheur d'un message, le message biblique, pour aujourd'hui, même au travers et au-delà des obscurités historiques qui sont proposées à notre réflexion. Eh bien, on va reprendre un peu cette lecture de Paul Valadier dans la deuxième partie de l'émission. Dans la deuxième partie, je voudrais rappeler qu'il s'agit du livre de Paul Valadier, « Sagesse biblique, sagesse politique ». C'est édité chez Salvador et cela coûte 20 euros. Sagesse biblique, sagesse politique. À notre époque, comment peut-on justifier cela? Déjà, les philosophes ont récusé ces sagesses et entre autres, la sagesse biblique. Je cite... Toute religion traditionnelle, juive ou chrétienne, ne me dit plus rien du tout en tant que telle. Je ne crois d'ailleurs plus qu'elle puisse fournir quelque fondement pour quelque chose d'aussi directement politique que les lois. Il s'agit ici d'une lettre de Hannah Arendt à Karl Jaspers. Donc, à notre époque, les fondements bibliques ont été récusés. Au profit de quoi ? Et c'est là que les choses deviennent tout à fait intéressantes. On a évoqué tout à l'heure la tyrannie de la mode ou la tyrannie des sondages. Mais il y a peut-être aussi autre chose. Dans cette recherche des experts, ou ces sommités scientifiques qui revendiquent au nom même de leur sommité d'avoir quelque chose à dire, et lorsque le politique ne peut que se taire devant ces sommités scientifiques, eh bien, on voit que des décisions sont prises, des lois sont faites, et qu'elles ne servent peut-être pas toujours l'intérêt général. Et dans certains cas, elles sont même abusives. Et doit-on obéir à ces lois? Donc, une autorité est à suivre, et c'est ce que souvent nous faisons, et c'est ce qui permet de mieux vivre, que l'on songe aux lois concernant le code de la route, enfin disons que d'une façon générale, le citoyen suit la loi, obéit à la loi. Mais est-il normal que les lois se fassent au coup par coup? Et est-ce que le courage en politique n'est pas de se dégager des sondages, se dégager des sommités scientifiques qui ont certes leur rôle à dire. Alors le père Valadier analyse long terme, court terme, quel rôle donner aux audits, quel rôle donner à cette recherche, comment choisir court terme, long terme. Et l'obéissance du citoyen démocrate, est-ce une obéissance passive, une obéissance en tout moment, ou bien a-t-il aussi à rechercher comment obéir de façon juste, puisque à la fois il est citoyen, mais il est aussi homme libre. Donc comment se fait le jeu de l'autorité politique, de l'obéissance à la loi, en même temps que se joue la liberté qui est requise de chacun des citoyens. Donc là, on a toute une réflexion. Est-ce que la loi doit être conforme aux mœurs? Est-ce que la loi doit être intelligible pour tous? Comment doit être prise une loi? Puisque les chemins de la justice sont peut-être là aussi à examiner. Est-ce qu'une loi juste est une loi qui simplement considère qu'on doit obéir aux décisions prises par les grandes banques? Donc, quelle est la place à la désobéissance? Quelle est la place à la réflexion personnelle? Toutes ces questions sont abordées dans le chapitre « Toute autorité vient de Dieu ». Et puis, il y a bien sûr la question suprême et le péché. Où se situe-t-il? De façon contemporaine, on a évoqué les structures de péché. Cette notion introduite dans la mouvance de la théologie de la libération est reprise dans les textes récents de la papauté. Donc là aussi, est-ce que les systèmes dans lesquels nous fonctionnons sont des structures de péché? Dans ce cas, quelles lois? Comment faire pour que ces lois servent la vie bonne, c'est-à-dire l'intérêt de tous? Et puis, au-delà de l'ironie dégagée autour des discours ambiants, autour de ce qui est branché, est-ce qu'il n'y a pas, du côté de la sagesse biblique, à retrouver sur quoi fonder les forces de résistance, sur quoi fonder la réflexion, sinon sur la méditation, la prière, la pensée loin de la mode? Comment prendre des distances vis-à-vis du capitalisme, vis-à-vis de l'armement, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la sexualité, dans la vie internationale, comment choisir? Donc, l'Église ne se risque plus à dire comment il faut faire, mais peut-être que le devoir de vigilance, que la réflexion critique ont quelque chose à voir avec cette sagesse biblique. Et puis, il y a aussi ceux qui disent « mais le monde est tellement horrible » que l'idée de fin du monde intervient et que l'attente du royaume nous amène peut-être à dire « eh bien, cela ne nous intéresse pas », puisque souvent, ce qui intéresse les chrétiens, c'est la vie au-delà. Or, vie au-delà, certes, et ça a été longtemps l'attitude chrétienne, mais le royaume commence ici-bas. Donc, la fin du monde annoncée par la foi chrétienne est d'une autre nature, et la fin du monde qui est annoncée ne nous empêche pas de voir comment se sauver du désespoir, se sauver de l'emprise du mal, comment aller au service des autres pour que ce royaume annoncé, ce royaume caché, avance grâce aux vies professionnelles de ceux qui, dans les familles, dans les hôpitaux, par l'accueil des migrants, disons, créent du lien social, permettent aux hommes de vivre et permettent à la vie politique d'être une politique au service de la vie bonne, sans se laisser fasciner par le mal que l'on voit ici et là et qui nous paraît un mal impitoyable. Il y a encore des hommes et des femmes qui se lèvent pour se battre contre le mal et souvent, le moteur de leur action, c'est la croyance en un Dieu, la croyance en Jésus-Christ. En tout cas, c'est une réflexion que propose le père Valadier dans ce livre « Sagesse biblique, sagesse politique », je rappelle, édité chez Salvator. Eh bien, je vous dis bonne semaine à tous.